Réalisation, présentation, Jean-Claude Mabère.
Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de l'entrevue, deux personnalités de la plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent. D'abord, Imam Sanogo Mamadou, secrétaire général de la plateforme, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Il est en compagnie du secrétaire général adjoint de la dite plateforme, pasteur Zunon Didier, bonjour à vous.
Bonjour, cher frère.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous entreprenez depuis quelque temps des missions dans la zone nord-est de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de la dernière mission que vous venez d'effectuer dans cette zone de la Côte d'Ivoire? Imam Sanogo.
Merci beaucoup, mon frère Mabia. C'est pour vous dire que cette mission-là se situe dans le cadre d'un projet qui est financé par l'ambassade des États-Unis. Et ce projet-là couvre le Tchologo et le Bunkani. Donc nous avons quatre localités qui sont concernées. Nous avons Kafolo, Bolé, Moro-Moro et Toubo. Et il s'agit de créer ce dialogue-là entre les religieux, mais aussi un dialogue multiculturel. Parce que avec tout ce qui se passe dans cette localité, il est important que les populations puissent se parler. C'est parce qu'on se parle, qu'on s'entend, qu'on se comprend et qu'on accepte de vivre ensemble malgré nos différences. Donc c'est ce travail-là que le projet nous amène à mettre en place. Et dans ce cadre-là, nous avons mis quatre plateformes du dialogue interreligieux et multiculturel de femmes dans ces quatre localités-là. Et quand nous sommes partis pour la première mission, nous avons constaté que c'était des femmes qui étaient braves. Et nous avons dit à notre partenaire, qui est l'ambassade des États-Unis, qu'il était important que dans le cadre de ce dialogue-là, pour permettre à ce dialogue-là d'être encore plus fort, d'être encore plus dense, il est important d'accompagner ces femmes-là dans le cadre des activités génératrices de revenus, donc les AGR. C'est ce qui a été accepté par l'ambassade. Donc la mission que nous avons effectuée il y a quelques jours, cette mission-là donc avait pour rôle de pouvoir leur donner les premiers chèques qui vont leur permettre de pouvoir commencer les différentes activités. Parce qu'il faut savoir que c'est des activités qui concernent la terre, donc les cultures maraîchères, le planter du riz, ainsi de suite. Et nous sommes dans la période, donc il est important de pouvoir régler ça. Donc nous sommes partis et toutes les communautés étaient là. La cérémonie s'est passée à Toubo avec la présence du préfet de Toubo, Monsieur Jack Loami, que nous remercions ici, qui nous a accueillis, qui nous a accompagnés dans ce projet-là. Et tous les chefs de village, les chefs de terre, les imams, les pasteurs de ces quatre localités-là, tous se sont retrouvés à Toubo. Donc ça a été une très très belle fête, une très très belle rencontre.
C'était au nombre de combien les personnes qui ont bénéficié de ces chèques?
Ce sont des plateformes de femmes que nous avons installées, des regroupements de femmes, des coopératives de femmes que nous avons réunies. Par exemple, à Toubo, il y avait 11 associations de femmes. Nous leur avons demandé de se réunir en plateforme pour que nous puissions les accompagner. Donc, ce sont ces quatre plateformes-là de Kafolo, de Bolé, de Moro-Moro et de Toubo qui se sont retrouvées à Toubo pour qu'on puisse leur remettre ces chèques-là.
Et en retour, c'est pour mener des activités génératrices de revenus.
Oui, c'est pour mener des activités génératives de revenus dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Vous savez que le gouvernement met cette politique-là pour permettre aux femmes de pouvoir être autonomes. Parce qu'une femme qui est bien dans la tête, une femme qui a quelque chose à faire, c'est la société qui se porte bien. Et la première école de l'enfant, c'est la femme. Et quand la femme va bien, c'est la famille qui va bien. Et donc, ce projet-là est axé sur les femmes. Et en créant ce projet-là, ça permet, à travers ces activités-là, aux femmes de travailler ensemble, les mains dans la main. Et vous voyez, dans ces plateformes-là, il y a les femmes autochtones, il y a les femmes qui sont venues à cause de la guerre qu'il y a à nos frontières, ces femmes-là qui sont venues, elles aussi, elles ont été acceptées dans ces communautés-là. Donc, elles aussi, elles sont dans ces plateformes-là.
Pasteur Zunon, vous êtes le secrétaire général adjoint de cette plateforme. Quelle est la situation aujourd'hui, de façon concrète, dans ces localités-là? Parce qu'on sait que le président du FASO a accusé la Côte d'Ivoire directement de déstabiliser son pays. Vous, qui vous êtes rendu sur les lieux, quelles sont aujourd'hui vos perceptions, ce que vous avez constaté pendant cette mission-là?
Merci, M. Mabéa. Bon, je pense que nous sommes partis à tout bord. Quand tu arrives dans ces localités, tu ne sens pas de peur. C'est-à-dire, c'est comme si on est à Abidjan. On ne lit pas de peur sur les visages des uns et des autres, parce que tu bois à 3 km du Burkina. On sait qu'il y a des Burkinabés qui sont à Toubo, mais tu ne sens pas l'effet de la réaction du président du Burkina Faso sur les populations. Les populations vivent en symbiose, et puis ça va. Pour quelqu'un qui va à Toubo, bien qui va à Bolé, bien qui va à Moromoro, Kafolo, il ne saura pas qu'il y a une différence entre ceux qu'ils ont accueillis et eux. Il n'y a pas de problème.
Et pourtant, récemment, la Côte d'Ivoire a refoulé 173 Burkinabés qui étaient venus s'installer dans une des localités de la frontière nord-est de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça n'a pas eu un impact sur les relations entre les communautés d'accueil et les populations déplacées dans ces localités-là?
Bon, de mon constat, ça n'a pas eu d'impact. Parce que nous sommes partis pour la première fois là-bas en février. Et quand nous sommes partis maintenant là, c'est la même ambiance qui règne. À part quelques incursions des gens qui viennent, qui enlèvent les gens pour partir, mais on ne nous a pas signalé véritablement un désaccord entre ceux qu'ils ont accueillis et ceux qui sont là. Parce qu'il y a des femmes même qu'on a trouvées dans le restaurant où nous avons mangé, c'est les filles burkinabées qui viennent nettoyer là-bas, qui viennent faire la vaisselle et tout et tout. Donc, entre les populations, ça va. Vraiment, le constat que moi j'ai fait personnellement entre les populations, vous, si vous allez là-bas aujourd'hui, M. Mabia, vous n'allez même pas sentir que ça va pas entre les populations, que le discours des politiciens influe forcément sur ce qui se passe entre eux.
Et donc, est-ce qu'on ressent toujours des mouvements de personnes venant de ces zones, venant du Burkina, peut-être même du Mali ou du Niger, vers ces localités-là, Imam Sanogo?
Bon, sentir ces mouvements-là, je ne pourrais dire quelque chose, mais ce qui est sûr, il y a une forte population de personnes venues du Burkina qui sont là. Ils nous ont été présentés même, il y a les chefs de communauté qui sont là. Donc, je pense que c'est une population qui vit en harmonie. Et tout ce discours qui se passe, les populations n'ont pas de... Elles vivent, ces populations-là vivent en harmonie. Et même, il y avait les différents représentants de ces communautés-là à la cérémonie que nous avons eue. Donc, c'est une population paisible. Quand vous allez là-bas, bon, vous ne sentez pas véritablement qu'il y a, une crise. Vraiment, les Ivoiriens sont très formidables. Ils sont formidables. Ils ont intégré ces populations-là, en tout cas pour ces populations venues d'ailleurs qui sont à Touboville, qui sont à Moro-Moro, qui sont à Kafolo, qui sont à Bolé. Ces populations-là sont intégrées. Et tu peux même pas faire la différence. C'est dans les discours, quand ils vont se présenter, ils vont vous dire, nous, on vient de là, nous, on vient de là. Il y a des imams même qui viennent du Burkina, et dans le cadre de cette crise-là, qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui étaient dans l'Assemblée. Donc vraiment, nous, on peut saluer la population ivoirienne qui n'a pas de problème avec ces personnes-là.
Elle a ouvert grandement ses bras à ces populations. Le HCR, lors d'une rencontre le week-end dernier, a enregistré ou nous a fait savoir qu'il y a plus de 60 000 personnes déplacées du Burkina Faso, du Mali, du Niger, vers ces localités de la Côte d'Ivoire, ces localités aux frontières.
C'est ça.
Ça aussi, est-ce que la capacité d'accueil du dispositif mis en place par le gouvernement pour accueillir ces populations arrive à supporter ce flux de personnes?
Je pense qu'il y a deux politiques que nous avons constatées sur le terrain, deux politiques sont utilisées pour accueillir ces personnes-là. La première politique, c'est de construire, n'est-ce pas, un espace, de réserver un espace pour ces réfugiés-là. Et la deuxième politique, c'est de permettre à ces réfugiés-là de s'intégrer dans la population. Parce que créer un clivage entre réfugiés ici et population ici, ça pourrait créer des petits problèmes. Donc, permettre à ces populations-là de se parler, de marcher ensemble, ça permet de contrôler tous ceux qui viennent, qui n'ont pas de bonnes intentions. Il faut savoir que la politique ivoirienne est bien menée là-bas. En tout cas, pour ce que nous avons constaté, il y a des camps militaires, mais ils sont pas visibles. Ils font un travail de renseignement très efficace que nous avons constaté à travers des choses que nous avons vues sur le terrain, un travail de renseignement très efficace, mais sans bruit, sans faire peur à la population. Voilà. Même on a eu des activités la dernière fois qu'on est venu, le commandant de la zone de Kafolo, Il était avec nous, il est venu participer à cette activité-là. Donc, même les militaires, leur présence, c'est pas pour faire peur à la population, mais ils sont très efficaces sur le terrain.
Parlant toujours d'accueil de ces personnes déplacées dans ces zones-là, est-ce qu'aujourd'hui, le dispositif mis en place tient compte des services sociaux de base? Je veux parler de la santé, de l'école. Est-ce que les enfants qui sont venus, qui ont perdu peut-être 1 ou 2 années de scolarité, ont pu s'intégrer, pasteur Junon Désiré?
Je pense bien qu'au niveau de la santé, là, il n'y a pas de problème. Les entrevues que nous avons eues avec le sous-préfet nous a signifié que ça allait bien entre les populations accueillies et les populations autochtones. Et je pense que quand il dit ça va aussi bien au niveau des activités socio-culturelles ou bien même au niveau de l'école. Les familles qui sont arrivées à Toubo, par exemple, parce qu'on a fait une activité non loin de l'école primaire, ont pu intégrer leurs enfants dans l'école. Voilà, donc au vu de ce que le sous-préfet nous a dit, à ce niveau-là, je pense que ça va bien.
Parce que les échos qui nous parviennent de ces zones-là, c'est effrayant parce que quand on entend un peu les discours des politiques, on s'est dit, mais attends, quel impact ça peut avoir sur ces populations? Et donc, si vous qui êtes allé sur les lieux, vous nous rassurez, Dieu merci, est-ce que vous pensez que vos actions ont commencé à porter des fruits sur place, Imam Sanogo?
Oui, je pense que les actions portent leurs fruits parce qu'il y a le chef du village par intérim de Toubo, dans son discours, qui a fait l'état de la situation. Il a dit que les populations vivent en harmonie. Il a dit que les Peuls et les Burkinabés, les Halogènes, les Autochtones, tous ces peuples-là vivent ensemble. Donc, il nous a fait ce point-là. Et nous-mêmes, sur le terrain, nous constatons cette situation parce que c'est un grand regroupement de personnes, des gens qui viennent en masse. Et puis, on ne sent pas la peur. Vous voyez, c'est en pleine forêt, on traverse toute cette localité-là. Tous les jours, on vient matin, on va à Toubo. Le lendemain, on va à Sojo. Mais on n'a pas été intimidés. Et puis, il n'y a pas eu de discours pour nous faire peur. Vraiment, nous pensons que pour le moment, le discours politique qui fait peur n'a pas d'impact actuellement sur le terrain. Et je pense que c'est le travail formidable qui est fait par les autorités religieuses, les autorités locales, qui sont les chefs des villages, les chefs des terres, qui font un travail très efficace. Et puis, le sous-préfet de Toubo, avec qui nous avons eu beaucoup de séances de travail, il est efficace. Il arrive à travailler avec ces populations-là. Donc, pour le moment, pour ce que nous avons vu sur le terrain, avec ceux avec lesquels nous travaillons, nous pensons que, pour le moment, les populations vivent dans la tranquillité, travaillent dans la tranquillité, dans la cohésion.
Les plateformes que vous avez mises en place dans les 4 localités, est-ce que ces localités travaillent ensemble?
Oui, les plateformes se fréquentent. Maintenant, la dernière mission que nous avons faite, c'était par rapport à ce que chaque plateforme avait décidé de faire du point de vue de ce qu'ils doivent planter. Ils n'ont pas forcément la même chose. Ce qu'on a à Kafolo, ce n'est pas forcément la même chose, mais ils se connaissent. Parce que nos points focaux se fréquentent. Donc, ces points focaux-là mettent en contact toutes ces plateformes. Donc, la présidente, par exemple, de Kafolo connaît celle de Moromoro, celle de Moromoro connaît celle de Bolé, ainsi de suite. Donc, nous pensons que ce lien qui existe entre elles peut faire que de temps en temps, il arrivera un moment où elles vont travailler sincèrement ensemble.
Par rapport à votre projet, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dresser un bilan partiel avant que le projet ne prenne fin?
Oui, le bilan partiel, c'est la mobilisation. Les gens sont réceptifs à ce discours-là qui veut qu'on marche ensemble, à ce discours-là qui veut qu'on se parle, qui veut que chrétiens et musulmans se parlent, qui dit que la religion n'est pas faite pour mettre les gens en conflit. La religion est faite pour donner de la joie, donner de la tranquillité. Et donc, les gens sont aptes à ce discours-là. Et nous avons même fait des formations sur la coalition pacifique, ainsi de suite, sur l'extrémisme violent. Donc, nous avons fait ce travail de formation-là. Et puis, je pense que c'est compris parce que chaque fois que nous sommes partis, les populations sont là. Tout le monde est là. Toutes les couches sont là. Toutes les autorités locales, le chef du village en premier est là. Les imams sont là. Les pasteurs sont là. Donc, nous pensons que ce travail est en train de faire tache d'huile. Déjà, il y a un travail qui était fait avant qu'on ne vienne. Et puis ensuite, nous sommes venus. Il y a un autre travail qui est en train d'être fait pour réunir les gens. Et puis, à travers ces AGR que nous avons initiés, ça encore, ça participe à unir les communautés. Et puis, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, ces communautés-là se parlent. Les points focaux de nos plateformes sont dans des différentes localités, mais ils se connaissent. Ils travaillent ensemble. Et je pense qu'à travers ce projet qui est initié par l'ambassade des États-Unis, ça va encore renforcer ce travail de synergie là qui s'opère entre ces différentes communautés.
Le projet prend fin quand?
Le projet prend fin en fin mars, donc nous sommes dans les débuts et nous espérons que jusqu'à la fin de ce projet là, nous allons avoir de très beaux fruits. Et puis, il y a des questions qui nous sont posées ici. Je pense que la prochaine mission, nous allons encore approfondir un certain nombre de choses pour comprendre un certain nombre de choses aussi qui vont nous permettre de donner encore d'autres explications. Mais nous disons que c'est pas de la langue de bois, c'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais nous sommes partis et nous n'avons pas trouvé une population qui est stressée. Nous avons trouvé une population qui est tranquille, qui est apaisée, et nous voulons vraiment féliciter nos autorités qui font un travail efficace à travers les préfets, à travers les sous-préfets, à travers les autorités au niveau local. Donc on voudrait remercier toutes ces personnes-là qui travaillent à apaiser la population.
Pour finir, Pasteur Zunon, Didier, vous qui êtes constamment sur le terrain, est-ce que vous avez constaté des difficultés qu'il va falloir surmonter tout au long de ce projet?
Oui, il y a assez de défis à relever. Vous voyez Kafolo, ça c'est le Kélougo. Maintenant, Bolé, More, More, c'est le Bougani. Quand nous sommes allés à Bolé, l'imam a dit qu'il y a des infrastructures qui se font à Kafolo, par exemple, qui n'ont pas. Or, ce n'est pas les mêmes départements. Donc, quand on arrive et nous pose le problème des châteaux, il y a des châteaux là-bas, mais qui ne sont pas alimentés en eau. Mais nous, quand on vient, on porte le message à l'État. Mais ce que nous sommes partis faire, moi qui ne suis pas de la zone du Nord, j'ai vu que c'est les femmes qui travaillent là-bas plus. Tout le temps qu'on a eu, c'est les femmes qui vont au champ. L'ambassade des États-Unis nous a permis d'avoir un projet pour eux. Déjà, la cohésion commence à s'installer. Même quand on est parti, il n'y a pas eu de couvre-feu, sauf à Bolé, quand ils ont appris qu'il y avait quelqu'un à Bolé qui sont venus prendre. Les corabiers ne vous étaient pas d'aller dans telle zone, dans telle autre zone. Vraiment, il y a beaucoup à faire.
Imam, oui.
À côté de ce que le pasteur a dit, il dit que l'accès à la zone, c'est vrai, actuellement, ils sont en train de mettre le goudron qui part déjà de Nassian jusqu'à Toubo. Mais pour le moment, l'accès est difficile. Et puis aussi, il y a le transport, le déplacement du personnel. À cause de l'accès, tous les véhicules ne viennent pas là-bas. Un seul véhicule qui traverse toutes ces zones-là une seule fois par jour. Donc, il y a ça qui est un problème aussi. Et puis, le projet vient pour arranger un autre défi, c'est l'approvisionnement en vivrier. On a vu que la vie était chère là-bas. Et donc, nous pensons qu'avec ce projet-là, on va permettre de pouvoir résoudre une petite partie de cette situation-là. Comme le pasteur a dit, vraiment, ces populations à Toubo, comme à Moro-Moro, vraiment, qui demandent de l'eau. Parce qu'il faut aller très loin, les femmes, c'est difficile. Donc vraiment, ce sont ces situations-là que nous avons rencontrées là-bas.
Vous allez garder la parole et lancer un appel pour que ces populations continuent de renforcer leur lien avec ceux qui sont venus d'ailleurs.
Oui, l'appel, c'est de demander aux populations de ces localités-là de continuer à travailler les mains dans les mains. Et surtout les religieux, de continuer à faire ce travail-là qui permet aux gens de s'unir. Parce que l'Ivoirien est beaucoup religieux. Les vendredis, il est à la mosquée. Les dimanches, il est à l'église. Et donc, on demande à nos leaders religieux de pouvoir prôner, enseigner le message de vivre ensemble. Savoir qu'on est chrétien, on est musulman, on est différent par rapport à notre manière de nous adresser à Dieu, d'adorer Dieu, mais comprendre que nous adorons le même Seigneur et comprendre que nous devons travailler et nous devons avoir l'intelligence de pouvoir travailler ensemble. Et demander à nos autorités de penser, surtout le ministère de la Femme, de la Pauvreté, de penser à ces populations-là. Parce que souvent, c'est les difficultés qui nous mènent dans ce genre de situation. Parce que les fauteurs de troubles profitent aussi de la pauvreté, de la situation difficile que les gens mènent pour pouvoir faire. Et le sous-préfet a lancé un message très important. Il nous a demandé de penser à la jeunesse. Donc, nous savons que notre bailleur, qui est l'ambassade des États-Unis, écoute beaucoup la radio de l'appel. La dernière fois même, ils nous ont fait un retour par rapport à une autre activité qui a été faite ici. Donc, pour leur dire qu'il faut qu'on pense aussi à la jeunesse, parce que c'est par ces personnes-là aussi. Quand ils n'ont rien à faire, passe par ces personnes-là pour installer le chaos.
Merci beaucoup, Imam Sanogo Mamadou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent. Et vous êtes accompagné aujourd'hui de votre adjoint, le secrétaire adjoint de la dite plateforme. Il s'agit du pasteur Zunon Didier. Merci d'être passé dans nos studios.
Merci beaucoup.
Merci.
Réalisation, présentation, Jean-Claude Mabert.
C'était l'entrevue
Radio de la Paix.